tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Ondes Positives. C'est parti pour une heure dans la joie de vivre communicative de Cécile Davas, mon invitée de la semaine. Bonjour Cécile.
Bonjour Dorothée.
Alors Cécile, on ne se connaît pas. Mmh. On s'est rencontrés pour la première fois ce matin pour préparer l'émission.
Oui.
Tu es la première à avoir répondu à mon appel à témoignage sur Facebook.
Oui.
Et tu m'as dit ce jour-là, j'ai envie de dire aux gens de profiter de la vie.
Oui, complètement profiter de la vie.
Alors en quoi c'est important pour toi de faire passer ce message ?
J'aimerais que les gens apprécient ce qu'ils ont aujourd'hui, les valeurs de chacun, de savoir se contenter de peu, de pouvoir apprécier surtout ce qu'on a, d'être bien avec soi-même et avec les gens autour de nous.
Ouais, de profiter de tous les instants plutôt que de se morfondre.
Ah oui, complètement. Je trouve que c'est trop dans le négatif, tandis que nous, on pourrait être positif et être heureux, tout simplement.
D'accord. Alors bon, ce message, évidemment, il ne vient pas de nulle part. Hein. Tu as toute une histoire de vie qui te fait dire ça aujourd'hui. Tu as 43 ans.
Oui.
Tu vis actuellement à Castelnau-Moratier, dans le Lot.
Dans le Lot.
Tu as 3 enfants. Mm-hmm. Tu t'es mariée 2 fois et tu as divorcé 2 fois.
Oui.
Et il y a un an, à peu près, tu as ouvert 2 boutiques à Castelnau-Moratier.
Oui.
Donc maintenant, tu es heureuse avec un grand H.
Oh oui, tout à fait.
mais ta vie n'a pas toujours ressemblé à ça.
Non. Hein?
Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton enfance à Beaumont-de-Lomagne?
Oui, une enfance. Je suis d'une famille de 5 enfants, donc 3 frères et une sœur. Et c'est vrai que j'ai toujours eu la sensation d'être pas à ma place dans cette famille, enfin, pas dans la famille, mais je me sentais pas à l'aise. Enfin, j'ai eu des difficultés, j'ai été obèse jusqu'à l'âge de 13 ans. J'ai beaucoup souffert de la différence, et la différence on peut en parler parce que maintenant on nous montre du doigt. Et enfin, c'était très très dur d'être différente des autres, d'être jugée en permanence.
Tu te sentais pas aimée?
Pas du tout. Enfin, j'avais pas ce sentiment d'être aimée.
Oui, et surtout par ton père, tu me disais.
Voilà. Alors qu'aujourd'hui, je vois les choses différemment. Je savais que c'était un papa qui travaillait, mais j'avais l'impression que j'étais pas à ma place dans cette maison avec lui. Mm-hmm. J'avais toujours l'impression que j'étais pas comme il aurait voulu que je sois.
Et avec ta maman, ça se passait comment ?
Elle m'aimait. C'était pas un amour caché, mais on s'aimait à côté.
Oui.
Voilà.
En cachette.
Oui, un peu en cachette. Moi, j'ai ce sentiment-là depuis enfant. Et surtout, beaucoup de souvenirs qui me restent, c'est ça. Ma maman, mais c'était quand j'étais seule avec elle, pas avec les autres.
Mm-hmm. À côté de ça, tu étais quand même rigolote.
Ah oui, j'aimais m'amuser, je faisais rire tout le monde. Je pense que mon côté d'avoir des formes importantes, parce que quand je faisais plus de 110 kilos, d'être en surpoids, il fallait que je me fasse voir aussi, mais d'une autre manière. Donc j'aimais rire, j'aimais m'amuser.
C'est un peu le cliché de la grosse rigolote,
voilà,
c'est ça?
Voilà, tout à fait, qui faisait rire quand elle sautait dans la piscine, quand avec les fringins. C'était particulier quand mon physique était un handicap, mais à la fois une façon aussi de faire rire tout le monde.
Oui,
voilà.
Et une douleur.
Et une douleur. Très une douleur pour une bonne raison.
Hein. Oui. Voilà. Alors, dans cette famille qui a 5 enfants, où il y a peu de moyens, tu travailles très tôt.
Oui, on travaille tous très tôt. Bon, moi particulièrement, parce que j'ai eu la chance de rencontrer à côté de chez mes parents, il y a une boulangerie. Et ces gens m'ont de suite pris comme une personne de la famille. Donc, j'ai été tout le temps chez eux, je travaillais avec eux, je partais en vacances parfois avec eux. Mm-hmm. C'est une dame pleine de joie, Cathy, que j'ai aimée comme une maman.
C'est là que tu vas trouver l'amour familial ou l'harmonie familiale.
L'harmonie et puis cette joie de vivre. Tous les jours, elle se levait avec... le jour se lève, ça y est, un nouveau jour commence. C'était excellent d'être avec cette dame, avec ces personnes-là, parce que c'est une famille formidable pour moi.
C'est cette famille qui sera ton modèle de joie de vivre, ton premier modèle.
Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment une... C'est facile pour moi d'être avec eux, c'était facile. Je me sentais à mon aise, je me sentais à l'aise. J'étais bien avec ces gens-là.
Et à 13 ans, tu prends une décision importante.
Oui, avec mes frères qui m'ont bien aidée. D'ailleurs, je les remercie. Je décide de perdre mon poids. Enfin, je décide d'être comme les autres, parce que sinon, c'était trop compliqué pour moi, même à 13 ans. Donc, je me mets à faire beaucoup de sport, je ralentis mon alimentation et je perds 60 kilos un peu plus d'un an.
Oui, pour être acceptée.
Prête à accepter, mais c'était, Ce qui a été difficile dans ce moment-là, c'est parce qu'à 13 ans, quand on est obèse, on vous traite de tout, de mammouth, de tout ce que vous voulez. Et quand on perd 60 kilos, on vous regarde comme quelqu'un de normal, de bien. Mais moi, dans ma tête, j'avais toujours ces 70 kilos. Donc, c'était à la fois agréable et désagréable.
Oui.
De voir comme le jugement. Moi, j'ai l'impression que depuis que je suis enfant, je suis jugée par le physique. Et qu'on juge facilement les gens pour leur couleur, pour leur poids, pour leur forme. C'est ça que j'aimerais aussi
faire passer comme message.
Faire passer le message. Comme quoi.
Donc tu es contente d'avoir maigri et d'être plus acceptée, mais tu es très triste de voir que finalement le jugement
c'est
des gens il tient à
tout
ça.
Tout à fait, tout à fait. Ça tient au physique, ça tient.
Et tu te sens plus acceptée de tes parents, mieux dans cette famille?
Pas forcément, pas forcément. C'est différent. C'est différent parce que moi aussi je deviens différente. J'essaye d'être plus forte, enfin, j'essaye de me donner une impression d'être plus forte, mais pas plus acceptée, non. Par contre, ce qui était dur, c'est que je pense que j'ai eu des moments où j'étais méchante parce que j'en voulais aux gens de me regarder parce que là, oui, j'avais maigri, que j'étais comme toute la population, si on veut, entre guillemets. Mais c'est-à-dire qu'on fait toujours par rapport à l'apparence.
Oui. Voilà. Donc si bien que comme tu te sens pas très bien dans la famille, à 16 ans tu décides d'être autonome.
Voilà, d'être autonome.
De prendre un appartement.
Je prends un appartement, je travaille dans une usine de couture où je démarre mes premières activités professionnelles très jeune quoi, entourée de 45 femmes qui étaient beaucoup plus vieilles que moi parce que c'est vraiment une usine où on est 45 femmes et des dames d'une autre maturité que la mienne bien sûr.
D'accord, donc tu fais ta vie pendant ces 3 ans, tu sors un peu tu as quelques expériences, tu es jolie.
Je suis différente, je dirais. Jolie, oui, parce que c'est comme dit, aujourd'hui, je vois les photos, oui, je me rends compte. Mais dans l'instant, je ne me juge pas physiquement. Mm-hmm. Ce n'est pas ça que je mets en avant. C'est pas... Moi, c'est plutôt la vie. J'avais envie de vivre, j'avais envie de m'amuser, d'être heureuse, de rencontrer l'amour, bien sûr.
Ouais. Voilà. Et à 19 ans, accident.
Qu'est-ce qui se passe? Très grave, oui. En revenant d'une soirée, j'ai eu un accident de voiture. Quand je me suis réveillée quelques jours plus tard, j'étais attachée avec des broches dans les jambes, le visage couvert d'hématomes et des bouts de verre. Vraiment très abîmée, les épaules. Enfin, j'étais monopolisée dans un lit pendant plus de trois mois. Et après, pendant un an, je suis restée dans un fauteuil roulant, le temps de rééduquer mon corps. Parce que même les médecins m'avaient bien dit que je ne pourrais ni avoir d'enfant, ni remarcher correctement.
Et voilà. Donc, tu te réveilles de tes opérations, t'as fait un coma,
Je suis restée plusieurs jours, oui, inconsciente.
D'accord. Et tu te réveilles et plutôt que d'être triste.
Mais je suis heureuse.
Tu es heureuse.
Je suis en vie. Pour moi, c'était, je me rappelle comme si c'était hier quand je me suis réveillée, que j'avais mes parents à côté, qui eux, les pauvres, mon papa, ils pleuraient, et c'est là que j'ai réalisé quand même, voilà, un papa, et une maman, qui aiment leur enfant, et j'ai le souvenir de les voir, et moi, j'étais contente, j'étais en vie. Je réalisais pas du tout ce qui m'était arrivé, je sais que je pouvais pas bouger, j'étais incapable de dire ce qui m'arrivait, mais j'étais là. Et le plus important pour moi, c'est d'être là.
Oui.
Je ne savais pas ce qu'il allait m'attendre demain, ni quoi que ce soit, mais c'est pas grave, j'étais là.
Donc tu remontes le moral aux personnes qui viennent te voir?
Ah oui, c'était rigolo. J'ai une copine qui est tombée dans les pommes, je lui disais, mais c'est rien. Mais c'était rigolo.
Elle tombe dans les pommes de te voir,
de voir
dans quel état tu es.
C'est vrai qu'après, on m'a donné un miroir, je crois que ça faisait un mois et demi, 2 mois que j'étais hospitalisée. J'imagine 2 mois avant comment j'étais. Quoi.
Ah oui. Voilà. Ouais. Donc, tu te rappelles d'une phrase des médecins qui te disent, mais si vous avez guéri, c'est...
C'était 50%, plus de 50%, c'était dû au moral.
Ouais.
Parce que je rigolais tout le temps, je faisais taquinerie aux infirmiers, tout ça, parce que je vivais là-bas, de toute façon. Hein. Même les gens qui venaient me voir, bon, ils étaient surpris de me voir aussi bien.
C'est à partir de là, de cet accident, que tu développes cet optimisme à toute épreuve?
Ah, pour moi, ça a été un déclic, oui.
Oui. Ouais. Alors, on va écouter le premier morceau que tu as choisi, Oz, de Yannick Noah.
Presque rien, juste un pas, et venir plus près. D'autres liens, d'autres voies, au moins essayer. L'étincelle qu'on reçoit d'un premier regard. L'étincelle vient de toi. S'envole au hasard et peut tout changer. Alors, donne à ta vie sa vraie valeur. Oh, 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 oh. Redonne à ce monde toutes ses couleurs. Presque rien, un silence qu'il faut écouter. Un chemin, une chance qu'on peut partager. Pas de doute, peur, tu peux avancer. Fais ta route, il est l'heure. Tu dois essayer. Tu dois tout changer. Alors, redonne à ta vie sa vraie valeur. Redonne à ce monde toutes ses couleurs. Reste rien, une route, tu peux avancer. Reste rien, un regard.
Ose, qu'est-ce qu'elle représente pour toi cette musique, Cécile?
Oser ce que j'ai fait déjà.
Ouais.
Oser perdre des kilos, c'est pas oser, mais c'est prendre la décision de le faire, avoir le courage après de le maintenir, oser avancer dans la vie.
Mm-hmm.
Voilà.
Et puis ta convalescence aussi.
Ah oui,
peut-être.
Ma convalescence, ça aussi, ça a été du travail parce qu'il faut être courageux tous les jours, il faut y aller, mais. Je me rappelle de ces souvenirs d'être motivée, très motivée, de vouloir marcher, puisqu'on m'avait dit que je ne marcherais pas. Moi, je voulais marcher, c'était hors de question que je ne marche plus, que je ne puisse plus aller danser. Je voulais être comme tout le monde. Après, voilà, c'était... Ah, il faut de la motivation, il faut être...
De la volonté, du courage.
Voilà, c'est de la volonté, du courage.
Mm-hmm. D'accord.
Être un peu têtu.
Ouais, voilà. Ça aide aussi.
Oui.
Donc tu sors de l'hôpital,
ouais.
Tu as envie de bouffer la vie.
Ah, complètement.
Oui.
Moi, je suis bien tous les matins, je me lève, j'ai de la chance d'être là. Même si physiquement, j'ai perdu beaucoup parce qu'il me reste des séquelles aujourd'hui. Mais je veux dire, je suis en vie. Mm-hmm. Je suis en vie parce que pendant cette période où j'étais à l'hôpital, j'ai perdu une personne que je connaissais très bien qui, elle, malheureusement, dans l'accident, est décédée. Et je me dis, tous les jours, je me disais, mais j'ai de la chance. Moi, je suis là.
Oui.
Je suis là et j'ai envie d'en profiter.
Donc tu as 19 ans, tu sors, tu fais un peu la fête.
Voilà.
Et puis tu vas rencontrer un homme avec qui tu fais un peu de moto.
Voilà, le papa de ma fille.
Oui, voilà. Donc il a 20 ans de plus que toi.
Voilà, il a à peu près 20 ans de plus que moi. Et je le connaissais parce que je connaissais le couple d'avant. Et ça s'est fait tout seul, comment dire. Rien n'était prémédité.
Il venait de divorcer de sa femme.
Voilà, il venait de divorcer. Il avait perdu leur fille. Et ils se sont séparés. Et nous, on s'est rencontrés. On flirtait. Et voilà, jusqu'au jour où j'ai appris que j'attendais un bébé.
Alors, pour toi, c'était complètement exclu d'être enceinte. Les médecins t'avaient dit que tu ne pourrais pas tomber enceinte.
Voilà, tout à fait. Ils m'avaient dit que non. Et
suite à l'accident.
Suite à l'accident. Et puis, multiples opérations suite à l'accident. Et donc, 2 ans après, je dirais, j'attends un bébé.
Donc, un jour, c'était
rigolo.
Tu as une boule au ventre.
Voilà.
Tu as peur d'avoir un cancer.
Tout à fait. J'ai peur de mourir. Pas du tout. Le lendemain, je vais voir le médecin et il me rassure en me disant que j'ai un beau bébé dans le ventre, bien avancé. Et alors là, je suis la plus heureuse du monde. Pour moi, c'était impossible déjà.
Mm-hmm.
Et à partir du moment où j'ai su que j'attendais ce bébé, je l'ai aimé à la seconde qui a suivi. Hein. C'était magique. C'était magique.
Si bien que tu décides de te marier avec le papa
voilà,
de ce bébé.
Tout à fait.
Alors que c'était pas forcément l'homme de ta vie. C'est pas comme ça que tu le voyais.
Du tout, du tout. Parce que pour moi, il y avait pas. Je n'avais plus droit à une vie de famille. Donc je ne m'en posais même pas. Je m'y intéressais pas. Je cherchais pas à avoir une famille parce que je pouvais pas en avoir une.
Mm-hmm.
Oui, rencontrer l'amour. On rêve tous de rencontrer l'amour. Mais c'était pas forcément prémédité.
D'accord. Voilà. Alors donc tu vas. Tu t'entends avec cet homme?
Aujourd'hui, oui.
Ouais, mais à l'époque.
À l'époque, c'était particulier parce qu'il est quand même plus âgé. Il a déjà des enfants, un divorce. C'est compliqué. Il est routier. On n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde tous les deux parce que justement, la différence fait que malgré qu'on le faisait pas voir en apparence devant les gens, en fait, il y a une différence. On est différent, qu'on le veuille ou non. Moi, j'étais très jeune.
Mm-hmm.
J'ai un bébé. J'ai à peine 21 ans, à peine. Lui, il en a presque 40, donc voilà, on est, qu'on le veuille ou non, on n'est pas pareil. Puis il est plus autoritaire, il a quand même une autre maturité que la mienne. Moi, je suis un peu plus faux-folle parce que je suis jeune.
Oui.
J'ai envie de, j'ai envie de vivre. Et lui, il est beaucoup plus renfermé, plus l'homme, l'homme marié qu'il faut vraiment maintenir à.
Le père de famille
le
autoritaire.
Le père de famille autoritaire, très autoritaire quand même.
Tu baisses les yeux devant
ouais,
lui.
Un petit peu quand même, oui. Mmh. Ouais, ouais, ouais.
Et tu auras quand même un deuxième enfant avec
oui,
cet homme.
Oui, parce que le couple ne va pas forcément bien. Donc l'enfant, pour moi, c'était l'amour. De faire un enfant à cet homme, normalement, ça devrait réunir, on devrait être heureux, tout va bien.
Oui, donc tu as ce deuxième enfant un peu pour recréer une unité familiale.
Voilà, tout à fait.
Ouais.
Bon, c'est un bébé d'amour, bien sûr, il ne faut pas l'oublier. Mais voilà, c'est pas forcé dans le couple, c'est pas comme ça que ça marche.
Ouais, ça marche pas forcément.
18 mois plus tard, presque 2 ans, un peu plus de 2 ans après, il décide d'arrêter d'être routier. Et c'est là que ça s'est très mal passé, quoi. Enfin, vraiment, la vie commune, finalement, elle était pas faite pour nous. Hein. Et
ouais.
Donc, un an après, je pouvais pas rester en couple avec lui.
Ouais.
Donc, je prends la décision très difficile de partir parce que c'est pas évident du tout.
Ouais.
J'ai un peu de soutien moral par des gens autour de moi, mais très très peu. En fait, il y a plus de jugement, de toute façon, dès qu'on prend une décision, telle qu'elle soit.
Mm-hmm.
Je prends quand même la décision de le faire, je m'en vais, ça a été très très dur au début.
Avec 2 enfants en bas âge, un de 6 ans et 3 ans et demi.
Voilà, 3 ans et demi, et là c'était dur parce que je me suis retrouvée vraiment seule, avec des tout petits moyens, je travaillais pour m'en sortir, j'ai accepté de faire plus d'heures, j'étais boulangère à l'époque, en fait, je travaillais dans une boulangerie,
mm-hmm.
à côté je faisais des ménages, je faisais tout ce que je pouvais pour gagner un peu d'argent pour les filles et moi, bien sûr,
oui.
On puisse s'en sortir.
Et dans ton appartement, il n'y a rien du tout, hein, c'est un frigo traité.
On m'avait prêté un frigo, une table de camping, un canapé que j'ai récupéré chez une copine, un lit par terre, c'est-à-dire un matelas et des couvertures, voilà, enfin, on squattait, quoi.
Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là?
Ah, moi, je veux m'en sortir, moi, je veux être heureuse, je veux vivre.
Tu te dis, je vais y arriver, c'est dur, mais je vais y arriver.
Ah, moi, j'étais persuadée que ça allait y arriver.
Oui.
Je savais pas combien de temps ça prendrait, je savais que ça allait être, avoir des moments difficiles, on le sait. Mais quand je voyais mes enfants, c'était excellent, elles étaient adorables. Elles étaient pleines de vie, elles comptaient pas tout ça, ça compte pas. L'amour, à ce moment-là, est plus important.
Mmh. Ce sont ces moments-là qui te t'aident à avancer?
Ah oui. Ah oui, moi, ces moments-là, j'ai vraiment. Ça me renforçait. Il fallait pas baisser les bras, il fallait être courageux. Et puis, c'était difficile par rapport à la famille, qui de suite, il y a un jugement, déjà,
oui.
Tu t'es marié, tu divorces. Enfin, bon, c'était déjà pas facile niveau famille, mais là, ça a pas aidé non plus.
Mmh.
Puis c'est là qu'on se rend compte aussi sur qui on peut compter. Dans des moments comme ça, dès qu'il y a un divorce, parfois on croit avoir des gens, comme on appelle amis, forcément autour de nous, qui peuvent nous tourner le dos, mais on se retrouve vraiment seul. Hein.
Ça fait le vide parmi les amis.
Ça fait un sacré trait, oui, tout à fait.
Tu te sens jugée à ce moment-là?
Oui, beaucoup. Beaucoup jugée, critiquée, humiliée, parce que c'est pas forcé. Puis les hommes, ils ont de suite, dès qu'une femme se retrouve célibataire, voilà, forcément, et ils pensent qu'à venir voir si c'était, voilà. Si
oui,
c'était
tu es une jolie jeune fille, hein, de voilà. 25 ans à l'époque.
Tout à fait, ouais.
Ouais.
Voilà. Et là, c'était dur. C'est, j'aime pas cette façon d'être vue, d'être utilisée, je dirais, entre guillemets aussi. Donc, je me renferme. Et jusqu'au jour où j'ai rencontré un homme qui était gentil, très gentil.
C'est sur ce critère-là que
ouais.
tu le choisis.
Oui, parce que je voulais pas de. Voilà, je voulais quelqu'un de gentil, même pour ce que je suis moi.
Oui.
C'est tout. rien que ça. Et ça a mis un peu de temps, parce que bon, après, c'est difficile aussi de faire confiance à quelqu'un.
Oui.
Mais j'ai sympathisé avec cet homme qui était très courtois, très, mais très simple. Puis il ne se posait pas de questions. Il était très gentil avec nous. Les enfants, ça ne lui posait pas de problème, tout ça. Donc au début, on était vraiment amis. On passait des heures au téléphone. C'était très rigolo, c'était sympa. Il me réconfortait. Il était très gentil avec moi.
Tu as l'impression à ce moment-là que tu as trouvé le grand amour?
Ouais, je tombe amoureuse d'un
homme. Le fameux prince charmant, voilà, que tu voulais, petite.
Puis, pas forcément physiquement, parce que, voilà, on n'est pas. Mais c'est vrai que c'était. Je cherchais pas du tout le côté physique non plus, mais sa gentillesse m'a donné envie d'aller plus loin.
Ouais. Et il te propose d'aller vivre chez lui à Castelnau-Moratier.
Voilà, tout à fait. C'est comme ça que je suis partie à Castelnau. Il m'a dit, viens avec les enfants. Il a insisté. Jusqu'au jour, j'ai dit, oui, t'as raison, j'ai rien à perdre là, parce qu'il y avait rien qui tournait comme je voulais non plus. La famille, bon, ça va, on n'est pas au bout du monde. Moi, du moment que j'avais mes enfants, tout allait bien. Et voilà, donc
tu
je suis partie
à maison.
Enfin, je quitte mon petit appartement, je quitte mon boulot, je quitte tout pour partir avec lui. Ouais.
Et alors, comment ça se passe avec lui dans le Lot?
Eh ben, au début, bon, c'était assez sympa. Après, on a eu Justine, notre petite.
Une troisième fille.
Une troisième fille, voilà. Et c'est là que ça a commencé à. Je m'apercevais de choses qui n'étaient pas forcément agréables envers mes enfants, mes deux filles aînées. Il a changé de comportement, je trouve.
À partir du moment où vous avez eu votre enfant ensemble.
Du moment où on a eu notre enfant, je pense que c'est ce qu'il voulait, un enfant à lui. Et bien là, mes deux filles, les pauvres, ont été un petit peu mis à l'épreuve d'un comportement d'un homme qui était différent de celui qu'il avait eu jusqu'à maintenant.
Il devient plus sévère avec ses deux belles filles.
Voilà, tout à fait.
Oui.
Il fait vraiment une différence entre sa fille et les miennes.
Et tu vas accepter ça?
J'accepte. Oui. J'accepte. J'essaie de passer des bons moments avec mes filles à côté. C'est vrai que mes filles, quand même, elles ont passé plus de temps à l'écart, surtout ma fille aînée, qui a du caractère.
Tu vas vivre en fait en cachette avec tes filles?
Un petit peu, oui. Ouais. Je me protège, je les protège à ma façon, parce que c'est pas le mot protéger, c'est un grand mot. Mais je les isole pour pas qu'elles soient confrontées à
le ces sautes d'humeur.
Voilà, ouais.
Et ça va durer 10 ans.
10 ans, à peu près.
10 ans de bonheur en cachette.
Ouais, voilà, oui. Moi, bon, je pense qu'elles ont passé des bons moments aussi. Je ne peux pas non plus tout réunir en 10 ans et dire que ça s'est toujours mal passé. Mais c'est vrai que moi, ce que je voyais, je ne pouvais pas rester comme ça. Pour elle. Et moi, parce que ça me détruisait aussi. On aime tellement ses enfants qu'on ne peut pas les supporter en souffrance.
Tu fais tout pour que ça marche quand même dans ton couple.
Oui, parce que pour moi, le mariage, c'est important. En plus de ça, c'était mon deuxième mariage.
Oui.
Donc, ce qui veut dire un deuxième échec. Si je faisais rien, j'essayais vraiment que ça se passe bien. On a essayé dans tous les moyens. Bon, lui, il voulait notre enfant. Moi, je n'en ai pas voulu. Mais il n'y avait pas que ça. Même dans le couple, on ne faisait rien. Ça stagnait. On ne faisait rien d'exceptionnel. Les travaux dans la maison n'avançaient pas. On faisait ce qu'on pouvait, peut-être. Mais on ne voyageait pas. On n'a rien fait durant notre vie commune. Ce qui veut dire aussi que je travaillais beaucoup. J'étais cuistot dans un collège, femme de ménage à côté. Je travaillais à la piscine l'été. C'est-à-dire, je travaillais.
Tu cumulais plein de
boulot.
De métiers,
j'ai toujours travaillé. Voilà.
Pour gagner de l'argent.
Pour gagner de l'argent, parce qu'il n'y en avait jamais assez.
Mais et t'en profitais pas.
Voilà, on n'a aucune sensation d'en avoir profité.
Il fallait épargner et pas profiter de cet argent-là.
Voilà, tout à fait.
Et ça ne correspond pas du tout à ta façon de voir la vie. Non. Toi qui as envie de profiter.
Ah, bon, tout à fait. Puis moi j'avais envie de voir autre chose.
Oui.
Puis de profiter, ne serait-ce que de, même avec les enfants, de faire des choses avec eux.
D'accord. Et en 2008, donc malgré ce que tu me racontes, tu acceptes tout ça, tu fais de ton mieux pour que ça aille mieux dans le couple. Et en 2008, ton ancien mari décide d'arrêter de fumer.
Oui.
Et tu as envie de l'accompagner dans cette démarche.
Voilà, avec sa demande, j'ai dit oui, bon d'accord, mais en fait ça m'embêtait parce que c'était toujours pareil, ça avait un coup et puis j'y croyais pas du tout.
Toi, t'étais fumeuse également.
Ah oui, bon, beaucoup, je fumais énormément, je fumais plus de 2 paquets par jour, je mangeais presque plus, je consommais plus de cigarettes que d'aliments. Quoi.
Ouais. Voilà. T'étais très mince, du coup.
Ah oui, du coup, j'étais très mince.
Après avoir été obèse dans ton enfance, tu avais un corps qui te plaisait.
Pour moi, c'est quelque chose qui est traumatisé. Enfin, le physique, le regard de l'autre est pas important, mais c'est frustrant. Frustrant, ouais.
Donc, vous vous lancez tous les deux dans cet arrêt du tabac et vous allez voir un acupuncteur.
Oui.
Oui, alors raconte-moi comment ça se passe.
En fait, on va tous les deux chez l'acupuncteur. Moi, pas du tout. Alors, j'y croyais pas du tout, du tout. En fait, au bout de ma séance d'une demi-heure, l'acupuncteur me donne un papier. Il me dit, il faut lire le texte, il faut faire ça. D'accord, bon, moi, je le fais. Je sais plus si lui, il l'avait fait, je crois pas.
Si ton mari
ouais,
l'avait
mon ex-mari, là. Je me rappelle pas qu'il l'ait lu. Et lui, dans la voiture, il commence à être déjà frustré à me dire, j'ai jamais fumé. Moi, non, pas du tout. Alors, je comprenais pas, une heure passe, deux heures passe, ça m'était jamais arrivé. Et puis trois heures, un jour, deux jours, trois jours. Et puis alors là, impressionnant, je tenais le coup. Au bout de trois jours, déjà, je disais, c'est pas possible, il va se passer quelque chose à un moment.
Trois jours sans fumer, t'as plus envie.
Mais j'ai plus du tout envie.
Ouais. Lui, il craque, il refuse.
Lui, il a craqué de suite, hein. Ouais, ouais. Il a craqué de suite. Moi, pas du tout. Mais au bout de quelques temps, quand même, je commençais à être un petit peu dérangée. Enfin, je me sentais un petit peu agressive, je me sentais un peu sur les nerfs. Puis des choses sont revenues à la surface dans ma tête. En fait, je devenais folle, quoi. Dans ma tête, c'était impressionnant.
Et tu te mets à manger?
Et je me mets à manger. Ça, c'était le plus dur pour moi parce que je ne connaissais plus l'alimentation. Je ne mangeais pas. Je m'alimentais très peu. Mm-hmm. Et là, le manque de cigarettes inconsciemment, je me suis mise à manger. J'ai repris beaucoup de poids. À l'espace d'un an, un peu plus d'un an, j'ai pris 30 kilos, quoi. Ouais. J'avais repris énormément.
Donc hein. Ça te met
à
plat.
Ah ouais, complètement.
Mm-hmm. Tu fais une dépression à ce moment-là?
Oh oui, je fais une dépression. Je fais que pleurer. J'ai envie de mourir. Je me jetterais presque du tout s'il fallait.
C'est le fait de grossir qui te
mon état,
déprime à ce
mon
point.
État. Bon, le fait de grossir, mais je pense aussi, en fait, le manque. On est vraiment addict. On est en manque. Moi, j'étais dans un état. Je tremblais. Je pleurais. J'avais envie de. Oh, c'était dur. C'était dur, mais je résistais. Je me suis fait force, là, quand même. Je me suis fait force parce que, pour moi, puisque j'étais arrivée un mois, une semaine, une heure, ne serait-ce que ça, je pouvais y arriver.
Oui.
Je savais pas quand c'est que ça allait s'arrêter, la douleur, la tristesse, le mal-être que j'avais. Mais je savais que ça allait marcher, que j'allais y arriver. Il fallait juste du temps.
Il y a toujours cet espoir, toujours ce souffle de vie qui te tient.
Tout à fait.
Oui.
Tout à fait.
Et tu dis qu'il y a des douleurs de l'enfance qui reviennent.
Oui, il y a des douleurs très difficiles qui sont survenues, qui sont remontées à la surface comme des images qu'on me projetait sur un grand écran. Et ça a été très, très difficile pour moi. Et il faut que je l'accepte. Donc, j'en parle.
Oui.
J'en parle autour de moi. Je suis allée voir des personnes pour en parler. Mm-hmm. Et je me fais soigner.
Oui, tu te fais suivre.
Je me fais aider, pas soigner, parce que c'est un grand mot. Mm-hmm. Tandis que là, je me fais aider à pouvoir parler, à pouvoir trouver une solution de m'en sortir. Et au bout de peu plus de 18 mois, j'arrive quand même à remonter à la surface. Je souffle une grande bouffée d'oxygène, d'ailleurs. Je reprends goût à la vie. Progressivement, je me sens positive. Je sens que ça va beaucoup mieux. Donc, c'est très agréable.
Alors, on partage le deuxième morceau que tu as emmené, c'est Robbie Williams, Tripping.
Oui.
First they ignore you, then laugh at you and hate you. Then they fight you, then you win. When the truth dies, very bad things happen. They're being heartless again. We'll be right back.
lost, we're exploring. What you think is worth it, I'm adoring. You don't want the truth, truth is boring. I got this fever, need to leave the house, leave the car, leave the bad man where they are. I leave a few shells in my gum and stop me staring at the sun.
Stripping. Alors, pourquoi tu as choisi ce morceau, Cécile ?
J'ai choisi ce morceau parce que même quand on voit le clip, on le voit en train de courir dans tous les sens, un peu comme moi à cette période-là, je ne savais plus trop où j'allais, j'avais l'impression de foncer dans un mur, d'aller dans tous les sens, de vouloir m'en sortir, mais de ne pas savoir où je vais. Ce n'était pas évident, c'était une période assez difficile.
Et en même temps, tu avais l'impression que c'était vraiment une étape à franchir.
Oui. Parce que j'étais sûre qu'au final, je trouverais quelque chose de positif. J'ai toujours su qu'à un moment ou un autre, il y a quelque chose de bien dans ma vie. Je ne sais pas quand ça arriverait, mais j'y croyais. J'y crois jusqu'à aujourd'hui que tout va bien. Mm-hmm. Mais à cette période-là, voilà, je savais qu'il fallait passer par tous ces caps. Je ne savais pas combien de temps ça allait durer. C'était difficile de... C'était pas facile tous les jours, quoi. Surtout oui. Que les enfants sont là, mais j'y croyais. Je savais que oui. Ça serait bien, je savais pas quand, mais j'y croyais.
Et puis cette étape, elle dure 2 ans quand même.
Ouais, presque 2 ans, voilà. Mm-hmm. Mais on se rend pas compte dans l'instant, je ne me rendais pas compte. J'avais pas la notion du temps, j'avais pas la notion des choses, même parfois des valeurs de ce que je pouvais dire à mes enfants, parce que je pense que j'étais loin dans les paroles à leur dire que je voulais mourir. Les pauvres, c'était... J'imagine parfois, quand on en parle aujourd'hui, j'imagine à ce moment-là, comme elles me voyaient partir, je décidais, je veux mourir.
Oui.
J'étais tellement mal, je souffrais, j'avais les tripes... C'était très dur, quoi. C'était la souffrance.
À cette époque-là, quand ça va un petit peu mieux, hein, tu fais des ménages chez une acupunctrice.
Oui.
Hein. Il y a beaucoup d'acupuncteurs qui jalonnent ta vie. Et alors, tu vas voir quelque chose chez elle.
Ah oui, c'était ça, moi. Mais à chaque fois que j'allais, toutes les semaines, quand j'allais chez elle, c'était, pour moi, c'était une évidence. Cette phrase, c'était, si tu veux être riche, c'est-à-dire la plus belle des richesses, c'est de faire ce qui te plaît.
Alors, tu la vois où, cette phrase ?
Sur une table, qui était gravée dans une table. Et chaque fois que je nettoyais, je la regardais, je me disais, mais si tu veux être heureux, fais ce qui te plaît. Donc... Alors pour moi, c'était une évidence, il fallait que j'arrête ma vie avec cet homme qui, pour moi, était terminé d'un amour. Mais bon...
Donc tous les jours, tu vas tous les jours chez l'acupunctrice?
Non, une fois par semaine.
Une fois par semaine, tu fais le ménage?
Je l'avais noté, je l'avais carrément enregistré sur le téléphone, je l'avais envoyé, je le diffusais parce que je disais, c'est pas possible, c'est tellement vrai. Et puis si ça pouvait aider quelqu'un, comme ça m'a aidé à moi. Donc je l'avais communiqué en SMS à des gens que je connaissais, c'était...
Vraiment une phrase gravée dans le bois d'une table peut être un déclic dans une vie.
Ouais. Là, pour moi, ça a été une sacrée évidence. Pour moi, c'était... Puis tous les jours, je me disais, alors si tu veux être heureuse, et ce qui te plaît, et ce qui me plaisait à ce moment-là, c'est d'être libre.
Oui.
Libre en amour, libre avec mes enfants, ne pas me poser, ne pas avoir peur. Déjà, ne pas avoir peur, c'était important.
Mm-hmm.
Il fallait que je parte, c'était pas possible, je ne l'aimais plus.
Décides de divorcer ?
Je décide de divorcer.
Une deuxième fois ?
Oui, tout à fait.
Oui.
Là, ça a été plus compliqué.
Oui.
Parce que, en plus, bon, déjà, la décision était difficile à prendre, parce que quand même, pour moi, c'était aussi une deuxième fois pour moi.
Mm-hmm.
Les valeurs du mariage, les valeurs du couple, de l'amour, j'avais essayé, durant mon mariage, j'ai essayé de lui en parler, j'ai essayé qu'il m'entende déjà. Ce qui était très compliqué, parce qu'il ne m'entendait pas. C'est quand je suis partie que j'ai dit vraiment que je partais, que là, il a dit, tu aurais dû me le dire. Mais je lui ai dit des centaines de fois ce qui n'allait pas, mais il ne l'avait pas entendu.
Est-ce que tu as l'impression que tu le rencontreras jamais, l'homme de ta vie, à ce moment-là ?
À ce moment-là, oui.
Ouais.
À ce moment-là, j'y crois plus. Je suis dégoûtée. Dégoûtée, ce n'est pas le mot, mais je me dis, allez, c'est bon, laisse tomber. S'il doit arriver, il arrivera un jour, mais il faudra vraiment le mettre à l'épreuve, le pauvre.
Alors, ce qui est très compliqué, c'est que ta famille prend parti pour
cet homme-là,
ton ex-mari.
De quitter, oui, tout à fait. Parce que toujours pareil, dans le couple, on voit que ce qu'on a envie de voir, quand on était en famille, eh bien, il faisait une apparence parfaite, les enfants, il faisait celui qui s'en occupait, et avec moi, c'était comme si c'était le mari idéal, oui. Alors qu'on n'est pas à la maison, et à la maison, les gens ne voyaient pas ce qui se passait réellement, et donc ça a été très très difficile pour moi, parce que quand en fait je suis partie, ma famille l'a accueilli, comme si c'était normal, et puis ils m'ont jugé, ils m'ont critiqué, ils m'ont humilié, ils ont dit des méchancetés sur moi.
Tu te retrouves seule au monde?
Ah, complètement. Et puis le plus dur, c'est que de voir que lui, il l'accueille les bras grands ouverts et que moi, je me retrouve seule chez moi. Mm-hmm. Avec mes enfants. Que ma petite me disait, maman, tu sais, on est allé chez mamie, on a été chez tati, on a été. Et que moi, je pleurais toute seule dans ma maison. Et voilà, la famille.
Qu'est-ce qui te fait tenir à ce moment-là?
Ah, moi, j'ai une force de caractère, je pense, qui est pas mal déjà. Et
oui.
Puis le fait de vouloir m'en sortir pour moi, que pour moi et mes enfants, et puis être heureuse, j'ai le droit d'être heureuse. Voilà.
Tu déplores à ce moment-là que ta famille, elle s'en tienne aux apparences.
Ouais.
Comme les gens qui t'avaient jugé sur ton poids, ouais. Ta famille te juge finalement sur les apparences.
Mais ils ont jugé alors que. Je veux dire, ils ont facile de me juger en disant j'ai pas le droit. Presque j'aurais dû rester, même par obligation, j'aurais dû rester avec lui, même si ça n'allait pas. Ils voulaient pas savoir. Mmh. Pour eux, je devais rester.
Oui.
C'était une obligation. Le mariage, c'est comme ça. Déjà, j'ai divorcé une fois, pas deux, quoi.
Oui. Et même après avoir divorcé, tu vas te sentir en prison, rejeté, en quelque ouais. sorte. Pendant
rejeté.
Combien de
oh,
temps?
Oui, pendant quelque temps, parce que déjà le travail, d'aller au travail, de voir les gens autour de moi parler de moi, mais comme si j'étais pas là. Et dès que je rentrais dans une pièce, c'était, il y avait des glaçons, quoi. C'était, on arrêtait de parler. J'allais à la boulangerie, on me regardait comme une pestiférée. Enfin, voilà, le jugement était permanent. Du moment que j'avais divorcé une première fois, je n'avais pas divorcé une deuxième fois.
D'accord. Parce que là, contrairement au premier divorce, tu quittes ton mari, mais tu restes dans ton environnement.
Oui, je
voulais rester au village. Donc tu gardes tes voisins, tes collègues de travail. Ouais,
tout à fait. Je voulais rester au village parce que je trouvais ça lâche de partir encore une fois. Et malgré tout ce que j'entendais, j'étais là, je vais leur prouver que c'est pas vrai. Que non, c'est pas vrai. Je suis pas celle qu'ils disent. Je suis pas ce qu'il dit lui aussi. Parce que bon, pour se défendre, bien sûr. Et non, j'ai voulu rester, ça a été difficile, je dis pas que ça a été simple, mais entre-temps, j'ai rencontré des gens qui voulaient me changer les idées, donc je suis sortie un petit peu avec des copines, justement l'acupunctrice.
Oui.
Une fois, elle m'avait dit, on t'organise une petite soirée, c'était très rigolo, mais moi, j'avais pas envie, j'avais peur même de sortir, parce que j'étais tellement conditionnée pendant 10 ans de vie de couple et de mariage.
Oui.
À être
une bonne épouse,
voilà,
une bonne
mère.
J'essayais
d'être quand même à la hauteur de ce que tout le monde attend d'un couple. Donc une bonne épouse, une bonne maman. Donc pour moi, sortir seule, c'était pas concevable. Je regardais autour de moi pour voir si on me voyait pas. J'étais un peu gênée au début.
Ouais.
Après, écoutez, voilà, quoi, je suis partie un petit peu à vouloir m'amuser aussi.
C'est comme si la liberté qu'on veut se donner, il faut l'apprivoiser aussi un
tout
peu.
Tout à fait. Ah oui, c'est difficile au début. Ça se fait pas du jour au lendemain. On n'a pas. Puis tous ces interdits qu'on a eu pendant 10 ans, on peut pas croire que ça va partir comme ça du jour au lendemain.
Mm-hmm.
Mais c'est vrai qu'après, je suis un petit peu sortie. J'ai profité des bons moments aussi.
Et là, tu rencontres un homme.
Ah ben là, c'est rigolo, oui. C'est en fait par l'intermédiaire de son fils qu'il nous a fait rencontrer. Je suis très fière de lui d'ailleurs.
Ah ouais.
Ouais, ouais.
C'est ton beau-fils qui te met en contact avec son père.
Lucas, voilà, qui dit il faut que tu connaisses Cécile, c'est une copine à maman.
Mm-hmm.
Et c'était rigolo parce qu'en fait, bon, au début, c'était qu'au téléphone et tout ça, mais j'étais gênée. J'étais gênée, puis bon, moi, il faut dire, avec mon expérience de vie amoureuse, moi, les blabla, c'est bon, on m'en avait fait assez, j'y croyais pas trop. Il me charmait tellement au téléphone, c'est vrai que c'était très intéressant d'être avec lui.
Oui.
Et puis bon...
Alors, il est gentil, mais toi, ça te suffit plus d'être gentil.
Voilà.
Oui.
Moi, il me faut pas que des preuves, même... parce que moi, j'ai quand même mes enfants ont beaucoup souffert du beau-papa à une période. Donc, je voulais pas revenir avec quelqu'un. Je voulais pas me réengager dans une vie amoureuse. Je voulais pas penser à moi à ce moment-là.
Mm-hmm.
Je voulais penser d'abord à mes enfants. C'est pour ça qu'avec René, on a mis déjà du temps à être ensemble, vraiment.
Oui.
Et puis après, nous, en fait, nous, on a vécu chacun chez soi pendant plusieurs années et jusqu'à il y a 1 an et demi maintenant.
Oui.
En fait, on est parti au Sénégal. On a dit, si on passe 15 jours ensemble, on va voir où c'est qu'on en est à niveau épreuve amoureuse. Et au bout de, quand on est rentré du voyage du Sénégal, on a décidé de vivre ensemble vraiment, tous les deux, avec les enfants, avec nous. C'est-à-dire nos 5 enfants à tous les deux, quoi.
D'accord.
Voilà.
Alors, bon, vous vivez ensemble aujourd'hui.
Oui.
Hein, vous êtes une famille recomposée. Oui. Il y a cinq enfants à
cinq
la maison.
Enfants à la maison.
T'as l'impression d'avoir trouvé l'homme de ta vie cette fois-ci?
Oui. Par contre, la fois que je suis, il a pas changé. Enfin, il a changé. On change tous, mais il est gentil avec moi depuis le début que je l'ai rencontré. Mm. On s'entend très bien. On est très complices. On est vraiment tous les deux sur la même longueur. Par contre,
donc, tu as eu raison d'y croire.
Ah oui. Là, je tomberais de haut si l'amour s'arrêtait. Non, je crois à l'amour aujourd'hui, oui, complètement. Hein. Oui. Pour moi, c'est l'amour de ma vie.
Voilà. Après, le rapport de force dans un couple, la soumission, tu connais la plénitude, en fait,
voilà.
L'équilibre.
Complètement. Et puis, parfois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il est gentil. On accepte, on s'entend vraiment très, très bien tous les deux. On n'est pas identiques, mais on est beaucoup pareils. Mm. On a plein de points communs, on partage tout ensemble. Non, c'est chouette.
Alors, on écoute un petit Phil Collins, alors.
Ouais, voilà.
Come stop your crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around me. I will be here, don't you. So small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. 'Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day. They can't explain. I know we're different, but deep inside us, we're not that different at all. And you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day.
De Phil Collins, tu seras dans mon cœur. C'est voilà. Une dédicace à René.
Oui. J'adore cette chanson. Et voilà.
Elle représente quoi cette chanson?
Pour moi, c'est la joie de vivre. Je sais pas, c'est du boum au cœur, c'est pétillant, c'est Ah, c'est agréable.
Elle illustre ton bonheur conjugal aujourd'hui.
Ouais, mon bonheur conjugal, mon bonheur de tous les jours, de la joie de vivre, d'envie de foncer, de mais dans la joie, quoi, mm-hmm. être heureuse.
Alors avec René, vous avez ouvert il y a un an de ça.
Il y a deux ans, deux on a ouvert un petit magasin.
Oui, qui s'appelle comment?
Au Petit Bonheur.
Ouais, mm-hmm. Au Petit Bonheur.
Alors petit qu'est-ce qu'il y avait des. Alors on vendait des objets de décoration, des savons à lait de chèvre. Mm-hmm. Alors là, on a démarré une activité pendant un an à travers notre métier.
À Castelnau-Montretier,
voilà. Mm-hmm. En fait, pour nous, il fallait qu'on dans le village, parce qu'on se plaît beaucoup dans notre village, on voulait développer quelque chose, amener un petit plus, mm-hmm. donner quelque chose, un petit plus aux gens. Et alors donc, on faisait des paquets cadeaux, on s'amusait. En fait, on a rencontré plein de gens. Mm-hmm. Et ça, c'était merveilleux. On a fait des belles rencontres.
Alors, c'était un magasin qui était ouvert le mercredi, le samedi et le dimanche.
Voilà, en dehors de nos horaires de travail.
Ouais, donc vous travaillez chacun dans votre boulot.
On
quoi.
Est tous les deux fonctionnaires, hein. Ouais. Il faut le préciser.
Ouais. Parce qu'on et à côté de ça, commerçants.
Et là, on a pris un congé sabbatique tous les deux l'année passée. On a ouvert un deuxième magasin de vêtements. Mm-hmm. Et à partir de ce magasin de vêtements, on est tombés tous les deux dans notre filière. Commerçant nous a, on se sentait à notre aise, on était très bien, et puis on réalise surtout le besoin qu'il y avait.
Oui.
Et puis là, à Noël, on a eu un petit déclic aussi avec des touristes qui cherchaient des produits régionaux, qui trouvaient pas. Mm-hmm. Et alors, on s'est décidé à ouvrir un autre magasin. Donc, on a lâché le premier, le tout petit. On a gardé le magasin de vêtements. Mm-hmm. Et là, au mois d'avril, on vient de faire l'inauguration du magasin Au Bonheur des Papilles.
Oui.
C'est un magasin de produits régionaux, locaux, surtout en priorité autour de Castelnau, voilà.
D'accord.
Dans le village. Et mm-hmm. moi, je suis la présidente de l'association des commerçants que j'ai repris l'an passé, enfin en décembre.
Donc tu es devenue leader en fait dans ton
ça me plaît,
dans ta localité.
Complètement.
Ouais.
Je m'éclate, je motive, je
leader suis... pour plein de choses en fait.
Ouais.
Chez les commerçants pour créer de l'événement, ouais. mais aussi au sein de tes proches pour faire du sport.
Oui, alors ouais. ça c'est rigolo parce que moi je suis une passionnée d'aller marcher, faire du sport en salle. Mmh. Voilà, j'adore. J'adore tout ça, tout le sport en général. Mm-hmm.
Voilà. Et alors, qu'est-ce que tu fais au niveau des associations de Castelnau? Qu'est-ce que vous organisez?
Alors, on a organisé. Alors déjà, on a fait plein de trucs hein, vite. C'est-à-dire, depuis décembre, on avait fait une tombola qui s'est fait vraiment au dernier moment parce que j'ai juste pris l'association en novembre. Pour décembre, c'était un peu juste. Mais on a quand même créé un dynamisme très sympa. On a fait une loterie entre commerçants. C'est-à-dire, nous, on avait des tickets, mais des autres commerçants. Il mm-hmm. fallait qu'on s'envoie les clients. Mm-hmm. Et c'était rigolo, gentil, parce qu'en fait, on a fait ça à la Bonne Franquette au tout début. Et on avait misé sur un voyage à gagner. Et donc, il y a eu un voyage à gagner à Noël. C'était excellent. Ça, plein de petits cadeaux qu'on s'était fait entre nous.
Oui.
Et depuis, ça a bien évolué parce qu'on est quand même plus de 40 commerçants, professions libérales et artisans à être à l'association pour un petit village de 1600 habitants. Mmh. Et dans ce groupe de commerçants, on a réalisé, moi, mon petit rêve, c'était la fête de la musique. Et cette année, on a organisé une fête de la musique qui s'est passée, mais dans une ambiance super. On a eu plus de 400 repas servis, sans compter les cafés et la pizzeria qu'il y a au village. On avait contacté un groupe, enfin, trois groupes de rock qu'on avait pris. Et ce que je voulais, moi, pour une première, c'était surtout que ça soit à la portée de tout le monde. C'est-à-dire, on a fait un petit repas complet. C'est-à-dire, il y avait saucisses, frites, le fruit et le verre de boisson au choix pour 6 euros par personne. Ce qui voulait dire qu'on pouvait accéder à toutes les familles aussi qui pouvaient venir oui. manger ce soir-là.
Parce que toi, ce que tu as envie de dire, c'est il faut partager ensemble.
Mais partager.
L'argent n'est pas un problème.
Mais c'est pas un problème. Surtout, on en fait trop une obsession, comme si l'argent, c'était une nécessité. Oui, il en faut. Mais on met trop ça sur le mot crise, sur le mot... Il y a du chômage. En fait, j'entends de tout moi, au travers de mon commerce, mais je me dis non. Les gens, du coup, ils s'arrêteraient presque de consommer, mm-hmm. alors que la vie, elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé du tout en 10 ans, enfin, en 5 ans, même l'année dernière. Je trouve que les gens ont une autre mentalité parce que les médias, surtout à la télévision, si on regarde, on allume la télévision, il n'y a que du drame. Mm-hmm. Ils parlent souvent. Ça fait des années qu'on entend parler de la crise. Mais c'est quoi la crise?
Oui.
Mais je trouve qu'ils étouffent vraiment les gens avec ce mot crise.
Mmh. Donc toi, tu as éteint la télé, tu la regardes plus?
Ah, mais non, on regarde pas. Hein. Bon, on va regarder des belles émissions, on va regarder des beaux voyages, des choses normales. Enfin, même pour les enfants, ça veut dire il faut leur donner aussi l'aspect positif, parce que sinon les gens ils sont que dans le négatif. Alors moi j'arrive toujours à ma petite joie de vivre, ça arrive d'avoir des faiblesses, mais il faut essayer de les cacher, il faut essayer de les passer outre, essayer d'être...
De les surmonter, de faire avec et de les surmonter.
Puis bon, franchement, je crois qu'il y a pire que nous. Nous, on a de la chance, on est quand même dans un pays où on a tout. On a tout ce qu'il faut. Je veux dire, les valeurs sûres, c'est quoi aujourd'hui? Moi, je suis partie au Sénégal, c'était la première fois que je partais si loin. Et c'est là que je me suis rendu compte que les gens, ils ont une richesse. La plus belle des richesses chez eux, c'est d'être simple. Il n'y a pas de calcul, on ne calcule pas pour demain. On réfléchit pas. Ils sont gentils. La gentillesse, c'était énorme, hein. Vraiment, c'était formidable d'aller voir ailleurs ce qui se passe, vraiment, pour dire que la chance qu'on a, nous, ici. Hein. Ici
alors, voilà. ton projet pour insuffler encore un peu plus de joie de vivre dans ton village, c'est de créer les repas de l'amitié.
Ah oui, moi, c'est mon... Le mot amitié, il est fort. Ça voudrait dire qu'on pourrait se retrouver, que chacun puisse inviter des amis et se retrouver autour d'une grande table, comme on a fait pour la fête de la musique, mais pouvoir accéder, toujours pareil, à un prix raisonnable, que les gens puissent manger, parce que c'est vital de manger, mais c'est pas non plus... On puisse manger, passer une soirée ensemble avec de la musique, c'est-à-dire le repas de l'amitié. Pour moi, ça serait vraiment le petit plus pour finir l'année, avoir organisé un petit repas. Et ce qui était rigolo, comme pour la fête de la musique, qui a plu, c'est que les gens ne voyaient plus comme des commerçants. Parce que nous avons tourné notre tablier, on avait tous un petit symbole, on avait un foulard jaune avec le nom Actif Castelnaudé qui représente notre association.
Oui.
Et donc, on était tous, c'est-à-dire que ce soit la pharmacienne, que ce soit la dame du croque-mort, que ce soit la fleuriste, tout le monde, on était là. Mais on était là pour rendre service aux gens.
Oui, sans casquette.
Oui. Ils nous ont vus, je pense, différemment. Et ça les a fait rire parce que j'entendais après, ah, mais vous avez vu, il y avait la dame qui servait ça. Oh, ça m'a surpris que le kiné fasse ça. C'était rigolo. C'est-à-dire qu'on est tous égaux devant les uns les autres. Quoi.
C'est ta façon à toi de lutter contre le jugement.
Ah, complètement. Pour moi, c'est une façon tout à fait simple de dire, c'est pas parce qu'on est commerçant qu'on est plus que les autres, déjà. Ouais. Parce que jusqu'à l'an dernier, j'étais femme de ménage, j'étais cuistot dans un collège. Et je reconnais que depuis que je suis commerçante, on me voit peut-être différemment, mais pour moi, j'ai pas changé.
Oui.
Et j'aimerais que les gens comprennent qu'on est tous pareils, que le soleil se lève déjà pour tout le monde, ce qui est important aussi.
Si des personnes ont envie de venir te voir, donc elles peuvent te trouver au Petit Bonheur 2.
Au Petit Bonheur.
Ou au Bonheur des Papilles, voilà. À Castelnau-Montmathier.
Voilà, tout à fait.
Bien, merci Cécile pour avec tout ce plaisir. Que tu as partagé
merci
avec nous aujourd'hui.
Aussi.
Je suis sûre que ton témoignage va résonner quelque part chez nos auditeurs. Si vous avez envie, comme Cécile, de témoigner de vos expériences positives, de votre évolution, de votre philosophie de vie, c'est très simple. Contactez-moi via la page Facebook Ondes Positives CFM ou par mail dorothée.alio@hotmail.com. Cette émission sera rediffusée samedi à 21h et vous pouvez la trouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique Les émissions, émissions Ondes Positives. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve mardi prochain pour un nouveau rendez-vous positif.